Et tout de suite du grain moudre, Hervé Garnett.
Ah, merci Tara Schlegel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Fanny Richer, Antoine Ulster, Mathilde Barbier, Nicolas Ignatieff, réalisée par David Jacques-Luboviez, à la prise de son Jean-Frédéric. C'est un Goncourt de consolation, celui du premier roman, mais un Goncourt tout de même. L'écrivain algérien Kamel Daoud a été primé hier pour Meursault contre enquête, une réponse à des années de distance à L'étranger de Camus. Dans le roman de Daoud, la victime, l'arabe, sort de l'anonymat. On lui donne enfin un prénom, Moussa. Des deux côtés de la Méditerranée, le livre a été un succès. L'histoire du meurtre était jusque-là racontée d'un seul point de vue, celui de l'assassin. Voici la pièce manquante. Le récit est complet, le deuil peut s'accomplir. Alors il est tentant d'imaginer que ce processus littéraire pourrait se réaliser un jour au niveau politique, à savoir l'écriture d'une histoire commune, des rapports entre la France et l'Algérie, commune, c'est-à-dire acceptée par tous. Ce processus d'ailleurs est-il en cours ? Le 19 avril dernier, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, se rendait à Sétif, en Algérie, pour rendre hommage aux victimes du massacre du 8 mai 1945. Ce jour-là, jour de la célébration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, des manifestations en faveur d'une indépendance algérienne étaient violemment réprimées. Alors cette initiative française marque-t-elle une nouvelle étape vers la réconciliation jamais accomplie entre les deux pays ? Ce travail de mémoire permettra-t-il à l'avenir de passer à celui de l'histoire ? France-Algérie, que commémorer ensemble ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois ce soir Sylvie Thénault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS. Vous avez co-dirigé Histoire de l'Algérie à la période coloniale aux éditions La Découverte, ouvrage qui a été réédité l'an dernier en format poche. On vous doit par ailleurs en 2012 aux éditions du Cavalier Bleu, Algérie, des événements à la guerre, idées reçues sur la guerre d'indépendance algérienne. Voilà qui vous fait un point commun supplémentaire avec notre deuxième invité, Georges Morin. Bonsoir.
Bonsoir.
Du point commun, parce que vous aussi, vous avez publié dans cette collection des idées reçues du Cavalier Bleu, la même année, en 2012, l'Algérie au cœur des passions, idées reçues, cette fois sur une histoire et une actualité mouvementée. Georges Morin, vous êtes le président fondateur de l'association Coup de Soleil, oui, qui a pour objectif de mieux faire connaître en France le Maghreb et ses habitants. Je précise, je ne sais pas s'il faut le préciser, mais enfin, vous êtes né à Constantine.
Je suis né à Constantine, en Algérie. C'est ma seule qualité, ma grande qualité. Voilà.
Voilà. Notre troisième invité, c'est Marie-Christine Tavé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter au Journal du Dimanche. Vous venez de publier un ouvrage dont Georges Morin nous disait juste avant d'entrer en studio qu'il se vend énormément à l'aéroport d'Orly pour tous ceux qui partent en Algérie, puisque pour l'instant, on ne le trouve pas dans les librairies algériennes. Ce livre, ça s'appelle Paris-Alger, une histoire passionnelle. C'est publié chez Stock, ça vient de sortir. Et vous l'avez écrit avec Christophe Dubois. Alors, pour entamer la discussion avec vous trois, je voudrais qu'on revienne sur cette actualité très récente. Alors, demain, il y a cette commémoration des massacres de Sétif, le 8 mai 1945. Il y a donc eu la visite de ce secrétaire d'État, Jean-Marc Todeschini, à Sétif, à la mi-avril. Il a présenté son initiative qui visait donc à rendre hommage aux personnes qui étaient tombées ce jour-là et dans les jours d'ailleurs qui ont suivi, comme un geste fort et symbolique. Ça, c'est ce que dit Todeschini. Sylvie Thénault, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon d'apprécier l'événement ? C'est un geste fort et symbolique ?
C'est un geste supplémentaire, parce que quand même, je crois que le geste qui restera marquant avec le recul du temps, c'est la déclaration d'Hubert Collin-de-Verdière en 2005, parce que c'était la première fois.
Hubert Collin-de-Verdière, c'était l'ambassadeur de France à Alger.
Voilà, c'est ça. Et en 2005, on était dans un contexte particulier. Il y avait d'abord un peu la portée toujours symbolique des 50 ans. Hein, c'était 50 ans après. Et puis, on était dans le contexte en France où il y avait la loi du 23 février 2005, qui était une loi comportant un article recommandant au programme scolaire et à la recherche universitaire de s'intéresser d'un peu plus près aux aspects positifs de la colonisation. Il y avait un combat qui a été victorieux contre cet article. Et du coup, la déclaration s'est inscrite vraiment dans un contexte où il y avait un regain d'intérêt, un regain de polémique.
Cette déclaration, c'était pour dire que il s'agissait d'une tragédie inexcusable. Ce sont les mots voilà,
oui,
qui ont été prononcés à ce moment-là.
Oui, oui, exactement. Donc, je pense que le moment marquant, c'était 2005, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt de recommencer aujourd'hui.
Mais... Donc, on peut dire que cette visite de la mi-avril, elle s'inscrit dans la continuité d'un processus engagé il y a une dizaine d'années.
En écoutant Sylvie, là, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je crois que le coup de tonnerre le plus significatif, ça a été effectivement la déclaration d'Hubert Collin-de-Verdière, parce que il a été l'affaire Assétif, il a été le premier, il l'a fait Assétif et il l'a fait devant des étudiants, ce qui était quand même il y a toute une série de choses qui ont été importantes, mais il faut pas oublier aussi que si on reprend si je parle sous le contrôle de Sylvie qui connaît mieux les choses que moi, mais on peut dire aussi que Nicolas Sarkozy à Constantine, pardonnez-moi, en 2007, il a eu des mots durs aussi pour la colonisation. C'était étonnant parce que le soir même, il s'excusait auprès des associations Pieds Noirs et Harkis de ce qu'il avait dit à 11h à l'université, mais enfin bon, il l'a dit, c'était quand même le président de la République française. Il y a eu Bernard Bajot à Guelma en 2008 aussi, l'ambassadeur de France, qui lui aussi a eu des mots très forts à Guelma. Puis François Hollande, bien sûr, en 2012, et puis maintenant en 2015. Mais c'est vrai que ça fait... on a l'impression que chaque fois, on redit un petit peu la même chose, qu'on s'excuse. C'est presque, vous savez, les condoléances que présentait Erdogan aux Arméniens. Quoi. Je trouve, moi aussi, que si on veut vraiment vider l'abcès, il faut aller plus loin. Je sais pas, on peut employer des mots forts et dignes qui sont... susceptible de montrer que la France reconnaît, rappelez-vous Chirac, hein, le crime d'État en parlant du Veldiv, bon, il faut aller jusque-là.
Vous dites, on a l'impression qu'on répète un petit peu à chaque fois la même chose. Marie-Christine Tabé, est-ce que c'est vécu comme ça justement par les Algériens, en tout cas les autorités algériennes, l'impression qu'effectivement on dit des choses, mais qu'on dit toujours les choses de la même manière et qu'il faudrait aller encore plus loin pour régler cette histoire ?
Au fil de l'enquête, on s'est justement demandé jusqu'où les autorités algériennes avaient envie que la France aille et jusqu'où la France avait vraiment envie d'aller, parce qu'on a l'impression d'un jeu de ping-pong. Que chacun des deux classes politiques se renvoie et est-ce que vraiment ils ont envie d'aboutir d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée ?
C'est-à-dire que quand vous posez la question, ça suppose que les autorités algériennes n'auraient peut-être pas totalement envie que la France fasse une repentance absolue. C'est ça ? Ils ont intérêt à garder une France qui est encore un petit peu dans le camp si ce n'est de l'ennemi, mais en tout cas de l'adversaire.
Je parle vraiment sous le contrôle un peu des deux autres invités qui sont un peu les sachants. Moi, je suis journaliste, donc on a regardé ça d'une façon beaucoup plus instantanée. Mais oui, c'est clairement on a eu ce sentiment. On a le sentiment que, bon, déjà, on est dans une phase quand même, pour revenir sur le cadre politique, d'un réchauffement des relations. Donc, même si Nicolas Sarkozy a eu des mots qui ont été sensibles aux Algériens, il a déçu au fil du temps. Donc, on voit bien que depuis la présidence Hollande, les relations se réchauffent. Donc, c'était difficile pour François Hollande de ne rien faire. Il doit entretenir quand même cette chaleur. Toutes les relations économiques, diplomatiques sont au beau fixe.
Et puis il l'a fait donc en décembre 2012, hein, devant le Parlement algérien, avec là encore des mots assez forts à propos du système colonial, en disant que c'était un système profondément injuste et brutal. Donc juste pour avoir l'avis et de Sylvie Thénault et de Georges Morin sur ce sentiment que vous exprimiez, Marie-Christine Tabé, est-ce que c'est un sentiment qui vous paraît justifié, Sylvie Thénault ?
Moi, je crois que il faut qu'on abandonne tout le vocabulaire un peu psychologisant ou tendant à l'affectif. On est dans le cadre de relations entre États. Donc l'histoire est utilisée dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là, personne ne veut rien régler. Je veux dire, c'est un levier qu'on actionne au gré des besoins de la politique diplomatique. Donc quand on a besoin de souffler sur les braises, eh ben, on brandit le génocide. Je dis ça parce que en Algérie, ça existe, hein, l'idée qu'il y a eu un génocide au printemps 45. Et puis du côté français, moi je crois qu'il y a quelque chose qui a profondément changé entre la présidence de Sarkozy et celle de Hollande. Parce que en fait, je pense que Sarkozy, il était dans une équation difficile par rapport à ce qu'il pensait devoir dire et faire dans le contexte intérieur. Parce que dans le contexte intérieur, c'était quand même quelqu'un qui tendait plutôt à flatter, je dirais, ce qu'on appelle la nostalgérie, hein, la nostalgie de l'Algérie française. Du coup, il était tiraillé entre d'un côté côté une nécessité qui irait vers l'Algérie où il faudrait dire même les excuses et tout ce qu'on veut, et puis en interne, le soin à apporter à une éventuelle clientèle politique qui n'est pas du tout celle-là et qui serait plutôt sur une reconnaissance de la grandeur de la France, etc.
Ça, c'est côté français. Côté algérien ?
Alors, côté français, je n'ai pas fini sur Hollande parce que je pense que là où il y a un changement, et on le voit dans la visite de Todeschini, c'est que Hollande, il essaye de tenir l'équilibre. Todeschini va à Sétif, puis il va au cimetière Sainte-Eugène à Alger, qui est le cimetière des Français d'Algérie, en gros. Hein. Et le discours d'Hollande...
Il évoque d'ailleurs, les compatriotes, nos compatriotes victimes des débordements tragiques qui ont eu lieu à Oran le 5 juillet 1962.
Exactement.
C'est-à-dire juste après les accords d'Évian.
Voilà. Voilà. Et c'est la même chose dans le discours de Hollande que vous évoquiez à l'instant. À la fois, il y a la dénonciation du système colonial, et puis il y a aussi l'idée qu'il faut soigner toutes les mémoires, penser toutes les blessures. Donc je pense que c'est ça qui a changé, c'est la recherche d'un équilibre. Alors, côté algérien, ça plaît pas forcément.
Côté algérien, justement, on va peut-être demander à Georges Morin, alors.
Oui, j'ai réagi à ce que disait Mme Tabet tout à l'heure, parce que je crois que quand elle disait l'État algérien attend... Moi, à la limite, ça me paraît pas... Moi, je suis quand même... C'est vrai que je suis né là-bas, j'ai vécu tout ça. Pas le 8 mai 45, j'étais trop petit, mais je pense que c'est... À la limite, pardonnez-moi, je vais être très, très franc et brutal. Peu m'importe ce que souhaite le gouvernement algérien. En plus, c'est qui le gouvernement algérien? C'est quoi? C'est bon. Moi, ce qui m'importe, c'est je pense que ça ferait du bien à la France. Ça crèverait l'abcès. C'est ça qui me paraît important. Moi, je suis français, je vis en France, je suis très lié à l'Algérie, mais je pense que, bien entendu.
Mais qu'est-ce qui ferait du bien à la France? C'est-à-dire, ça serait quel acte?
De regarder les choses en face. Le 8 mai 45, c'est pas le 8 mai, c'est deux mois, trois mois, des choses épouvantables. Et c'est un point parmi d'autres. Quand vous regardez les années de la conquête, quand vous regardez la révolte de 1871, quand vous regardez 1945, quand vous regardez la guerre d'Algérie, il y a eu des horreurs épouvantables. Donc il faut regarder tout ça en face. Il faut le dire. Il y a des historiens qui le savent, qui l'ont écrit, qui l'ont filmé. Il faut que tout ça. Mais malheureusement, ça ne passe pas le plafond de verre. On reste entre universitaires, entre documentaires. Entre journalistes et non, bien entendu, mais je dis dans j'attends moi qu'il y ait des films de grande audience dans des prime time dans la télévision où on l'a eu avec Indigène par exemple, mais c'est pas suffisant, ça passe pas dans la population française.
Marie-Christine Tabet.
Non, juste par rapport à l'opinion publique algérienne, nous dans notre livre on a une partie qui est liée aux biens immobiliers des dirigeants algériens en France. Alors on a été, bien sûr, les réseaux sociaux fonctionnent très bien, donc on a reçu des tonnes de messages, et ce qui a terriblement frappé les Algériens, je vais dire l'opinion des réseaux sociaux, je sais pas ce que ça vaut. On évoque Chérif Abbas, qui a été un ministre des Moudjahidines, qui était quelqu'un qui tape énormément, c'est quelqu'un qui a beaucoup tapé sur la France, sur la blessure, sur la dette, voilà. Et les messages que l'on reçoit, c'est « mais c'est pas possible, il arrête pas de nous parler de la France, alors qu'il vit finalement en France ». Et on sent bien quand même que dans la jeunesse algérienne, qui est quand même très nombreuse, ces histoires mémorielles, je dis pas qu'elles sont pas importantes, hein, je pense qu'elles sont très importantes, mais il faut voir ce qu'attendent véritablement la population algérienne et le régime.
Alors justement, à ce sujet, avant de poursuivre la discussion, à propos de ce qu'attend ou pas l'opinion publique algérienne, disons pour utiliser un petit peu ce terme générique, je voudrais vous faire écouter une courte interview d'un documentariste qui s'appelle Mehdi Lalaoui, qui est présent en ce moment justement à Sétif pour les commémorations du 8 mai, qui a réalisé un documentaire Un certain 8 mai 45, qu'on peut d'ailleurs regarder en ligne si vous allez sur notre site. Antoine Dulster l'a appelé tout à l'heure, il lui a demandé si côté algérien, une mémoire commune avec la France semblait possible. Et lui, effectivement, il fait le distinguo entre ce qu'attendent les autorités et ce qu'attend la population.
Du côté algérien, du point de vue des citoyens, oui, bien sûr. Du côté des gouvernants, c'est difficile. Les gouvernants algériens, depuis plusieurs dizaines d'années, ont construit l'histoire seulement sur l'histoire de la guerre de libération, 54-62. Et il y a eu des freins par rapport à l'université algérienne pour la construction d'une autre histoire qui ne soit pas officielle. Bien. Il y a encore du travail à faire du côté du gouvernement algérien pour que, de façon libre, il y ait tout ce travail de connaissances partagées. Là, actuellement, en Algérie, il y a dans quatre universités algériennes, à Sétif, à Guelma, à Constantine, à Béjaïa, une rencontre internationale itinérante hein, sur les massacres coloniaux, donc il y a bien entendu CETIF, et il y a invité des universitaires du monde entier, français bien entendu, américains, anglais, qui sont capables d'échanger sur les connaissances sur ces événements. Moi je pense que si le gouvernement avait la volonté, le gouvernement algérien avait la volonté de donner ce coup de pouce qui permette de donner les moyens aux écoles d'historiens en France et en Algérie sur cette connaissance de ces événements, bon, l'Algérie c'est aussi un pays qui peut mettre des moyens financiers pour ça. S'il avait une volonté politique, il le ferait.
Bon, Sylvie Thénault, quand on évoque cette possibilité de commémoration commune, d'écriture d'une histoire commune, il faut absolument faire le distinguo entre ce que sont les relations au niveau des États et puis ce qui se passe au niveau et de la société civile et de la communauté des chercheurs, en particulier des historiens.
Ah, absolument. Vous avez cité, et j'en suis bien contente, en me présentant le livre sur l'histoire de l'Algérie à la période coloniale, sorti en 2012 à La Découverte, ce que vous n'avez pas dit, de
j'ai
très
pas dit
important.
À La Découverte. Oh
si, vous l'avez dit, ah. Vous n'avez pas dit autre chose. C'est que c'était coédité en Algérie en même temps chez Barzac. C'est Paris-Alger, La Découverte Barzac, et on est deux directeurs d'ouvrage algériens, deux directeurs d'ouvrage français. Bon, donc ça se fait chez les historiens. Et
ça a
comme
été facile.
À faire.
Alors, j'ignorais qu'il y avait cette coédition.
Si.
C'était facile à faire.
Mais oui, c'est très facile parce que, si vous voulez, c'est une drôle de vision de l'histoire. En fait, la vision nationale. Les Français sont pas d'accord entre eux. Les Algériens sont pas plus d'accord entre eux. Il y a jamais une vision nationale de l'histoire.
Heureusement.
Donc en fait, des Français et des Algériens peuvent être en accord ou être en désaccord. Et puis s'ajoute, comme l'a dit Mehdi Lalaoui à l'instant, les Anglais, les Américains, les Allemands. L'histoire, c'est quelque chose d'universel. Donc, chez les historiens, c'est pas le problème. Dans la société, moi, ce qui m'a frappé, c'était surtout en 2012, les différences d'attente entre l'Algérie et la France. 2012, c'était les 50 ans de l'indépendance. Hein. Alors, en France, il y avait une demande d'histoire incroyable. Je veux dire, on a eu quantité d'ouvrages, des débats publics, des émissions, des documentaires à la télé, etc. Ça, c'était en France. En Algérie, la demande, elle était un peu différente. C'était plutôt « bon, d'accord, c'est bien ». Nous, le passé, on connaît, on nous l'a appris d'une certaine façon. Le pouvoir y puise une source de légitimité sans fin, éternelle. On est un peu usé. Nous, ce qu'on attend, c'est maintenant, c'est le bilan des 50 ans. Donc, moi, les attentes de la société algérienne, je ne les connais pas. Je ne les connais pas plus que ce que seraient des attentes des Français en général. Je sais pas, voilà. Mais j'ai l'impression, effectivement, quand on rappelle la jeunesse de la population algérienne ou la décennie noire, qu'il y a bien d'autres questions que les Algériens voudraient soulever que celles de la période coloniale.
Alors, en tout cas, le travail que vous avez effectué comme historienne avec cette coédition à La Découverte, Sylvie Chenot, prouve qu'il y a, alors, il y a justement des travaux qui sont effectués des deux côtés de la Méditerranée. Je voudrais vous faire réagir, Georges Morin, à une critique qui a été formulé à l'encontre du secrétaire d'État Todeschini, critique formulée par Laurent Wauquiez de l'UMP, qui parle de repentance à sens unique. Il dit « Nous, nous faisons notre travail de mémoire. Il y a aussi un travail de mémoire à faire de l'autre côté. Il y a aussi une réflexion à faire en Algérie. » Est-ce que c'est une méconnaissance de penser que, côté algérien, quand même, ça... C'est peut-être un peu plus compliqué, en tout cas, de faire un véritable travail sur l'histoire des relations entre la France et l'Algérie. En tout cas, un travail qui soit un vrai travail d'historien et pas seulement un travail qui serve à instrumentaliser une politique.
Je crois que, d'abord, je ne pense pas que M. Wauquiez soit le mieux placé pour dire « nous, nous faisons notre travail ». Je n'ai pas entendu beaucoup de phrases dans sa bouche ou dans son camp ou dans les gens qui sont proches de lui disant quoi que ce soit de sensé sur la guerre d'Algérie, enfin au moins de reconnaissant un peu la difficulté d'émettre un jugement aussi péremptoire là-dessus. Bon, bref, peu importe. Moi, ce qui me paraît important, c'est effectivement, je crois que ce que disait Sylvie, c'est que il y a des travaux d'historiens en Algérie, il y a des travaux d'historiens en France, il y a des Algériens qui viennent travailler en France, des Français qui vont travailler en Algérie. Je crois qu'il y a paradoxalement une très grande liberté, une très grande aisance. Mehdi Lalaoui le disait aussi tout à l'heure. Les historiens se connaissent, s'apprécient, peuvent se disputer, ne pas être d'accord sur tout, Dieu merci. Mais voilà, je pense que au niveau de la communauté universitaire, il y a de moins en moins de problèmes s'il y en a eu auparavant. Mais
sauf que quoi, que ces travaux finalement ne servent à rien d'un point de vue.
Non, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est comme tous les travaux qui, enfin, je veux dire, on sait beaucoup de choses sur plein de problèmes qui sont extrêmement compliqués, pas seulement les relations franco-algériennes, mais malheureusement, moi, quand vous parlez de l'association Coussoulet, alors nous, moi, mon combat permanent, c'est de voir comment on peut faire en sorte que la société absorbe toutes ces connaissances et les fasse siennes de manière à décompresser un petit peu ces visions manichéennes qu'on lui sert à tout dans beaucoup de médias, malheureusement.
Alors ça vaut pour, s'agissant de la société, qu'elle puisse absorber cette histoire du côté algérien d'ailleurs et du côté français. Marie-Christine Tabé, j'aimerais que vous me racontiez cette histoire qui s'est mal terminée. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être que Sylvie Thénault considérera qu'au contraire, c'est plutôt bien terminé. Cette histoire du musée de l'histoire de la France et de l'Algérie qui a été portée par Georges Frêche, qui fait l'objet d'un chapitre de votre livre. Là, il y avait quand même une initiative pour essayer de raconter une histoire commune. Et puis, ça ne s'est pas fait.
Voilà. Alors, nous, on l'a découvert en tant que journaliste assez récemment, mais je crois que c'est une très vieille histoire. Et on a découvert que cette idée de faire un lieu de mémoire, en tout cas, existait. Enfin, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais existait depuis les années Mitterrand et depuis le premier septennat Mitterrand, puisque j'ai rencontré Maurice Benassayag, ou qui m'expliquait avec, je crois, Jacques Ribes, ont essayé de monter quelque chose autour de... Alors nous, ce qu'on a constaté en tant que journaliste, c'est que cette idée de mémoire a filé au long des alternances politiques et ne s'est jamais créée. Pour se terminer à Montpellier, en étant tout d'abord un musée décidé par la volonté de Georges Frêche, qui avait visiblement une personnalité capable d'imposer ce musée.
En gros, il pouvait plaire à ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française à ceux qui étaient pour l'indépendance, puisque au départ, il était plutôt militant.
Il s'était bastonné contre l'OS, la Corpo de droit à Paris. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la légende. Et puis, de l'autre côté, il s'était fait élire pendant plusieurs mandats, essentiellement par la communauté pied-noir. Donc, au début, ce musée a été plutôt pris en otage, entre guillemets, par la communauté pied-noir, qui avait un peu exclu ce qu'ils appelaient, parce que nous on est allés les rencontrer, le clan de Stora, ou ces historiens qui ne pensent qu'à l'Algérie mais pas assez à la France. Et puis après, finalement, le maire étant mort, c'est une équipe qui a essayé d'ouvrir sur plus de pluralité, puisqu'il y avait même des chercheurs algériens, je crois, qui ont participé à la création du musée. Et là, à ce moment-là, les politiques ont fait marche arrière parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la guerre.
Oui, mais enfin, moi, j'étais dans le projet, donc je pourrais en parler un petit peu. Les raisons de la fin du projet sont pas liées, je crois, à la ligne qui avait été définie, qui était une ligne d'historien sur le mode, pluralité du passé. Il faut dire quand même que chez les historiens, on fait un effort pour travailler ensemble, mais ensemble, c'est pas une question de nationalité, là encore. Hein, c'est un travail collectif. On cherche pas le consensus. Ce serait vraiment triste d'écrire une histoire consensuelle, parce que ça voudrait dire qu'on mettrait sous la table tout ce qui fâche. Le travail commun des historiens, c'est au contraire d'ouvrir tous les dossiers, y compris les plus douloureux, et de pouvoir afficher des points de vue et des interprétations divergentes.
Sauf que le travail commun des historiens, Sylvie Thénault, ensuite, il est aussi utilisé d'un point de vue politique. Et on a l'impression que, de toute manière, toute initiative qui viserait à raconter une histoire un peu commune des rapports entre l'Algérie et la France est forcément suspecte.
C'est pas qu'elle est suspecte, c'est qu'en fait, on peut tellement tirer cette histoire dans tous les sens, de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous pouvez y puiser. Vous pouvez parler de l'immigration, vous pouvez parler de l'islam, vous pouvez parler de la violence politique, vous pouvez parler de la colonisation, vous pouvez parler du génocide, vous pouvez parler de tellement de choses que finalement, les tentations d'usage, elles sont énormes et elles sont tout de suite là. Alors, il ne faut pas se leurrer, les historiens, ils ont aussi un sens politique. Hein. Simplement, quand nous, on prend des positions, c'est avec le bagage historique derrière qui permet de ne pas toujours dire n'importe quoi comme on l'entend ou on le lit sur mai 45, par exemple.
Georges Morin.
Oui, deux réactions. D'abord, moi, je me hérisse chaque fois que j'entends parler de la communauté pied-noir, parce qu'il n'y a pas de communauté pied-noir. Hein. Ça fait beaucoup de monde, qui sont des gens qui sont très divisés, qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais malheureusement, il y a notamment dans le Midi, des groupuscules qui sont constitués en associations qui prétendent représenter les pieds-noirs et qui ne les représentent pas. Donc là aussi, il y a une espèce de communautarisme dans lequel on veut nous enfermer. permet, moi, ne me convainc pas du tout. Et puis, moi aussi, j'étais comme Sylvie dans l'affaire du Musée national d'histoire de la France et de l'Algérie. Parce que je vous rappelle, la dénomination au départ, c'est l'histoire de la France en Algérie. Et on avait réussi à faire débaptiser ça pour que ça devienne le musée de l'histoire de la France et de l'Algérie. Fraîche aussi, je veux pas lui taper dessus parce que c'est Fraîche qui a réorienté le projet. Au départ, c'était un musée pour l'histoire de l'Algérie française, et puis c'est lui qui a fait nommer notre amie la conservatrice qui a fait du si bon travail, qui l'a persuadé qu'il fallait un vrai conseil scientifique, alors que le précédent conseil était constitué des associations pieds-noirs de Montpellier. Donc je crois que
il y a bien des associations pieds-noirs.
Ce qu'on avait réussi à faire tous ensemble, parce qu'il y a eu un gros travail pendant des mois et des mois, grâce à la conservatrice Florence Udovitch, qui avait été nommée par Georges Fraîche à la demande de Georges Fraîche, il y avait un travail qui consistait justement à, non pas, Sylvie a raison de dire, surtout pas d'histoire consensuelle, ça n'a aucun sens, mais il y avait un lieu où aller pouvoir se rencontrer, il y avoir des expositions, des conférences, des rencontres d'historiens, où on allait pouvoir confronter tout ça. C'est ça qui est important, d'arriver. L'histoire de l'Algérie et de la France, elle est tellement compliquée qu'il y a une cinquantaine de points de vue qui se valent. Donc il faut que tous ces points de vue puissent se faire entendre et être écoutés par les uns et par les autres.
Mais attendez, Georges Morin, je viens de me souvenir de quelque chose. En fait, ce lieu, il existe. Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Marie-Christine Tavé, ça vous fait rire autant que Sylvie Tenno.
Oui, alors moi je vais en parler.
Il faut aller voir sur le site, hein, d'ailleurs, pour comprendre pourquoi ça vous fait rire, parce que c'est assez surprenant.
Moi je vais en parler d'un point de vue journalistique, c'est-à-dire que quand on a essayé d'avoir des informations sur ce qui se passait dans cette fondation, on a bien compris. Enfin,
elle date de 2010. Enfin, ça a été créé en 2010.
C'était
avant, mais
exactement. Non, à la loi de 2005. En fait, elle a été créée par la loi du 23 février 2005, voilà, dont je parlais tout à l'heure, qui est la loi dans laquelle il y avait l'article recommandant d'insister sur les bilans positifs de la colonisation.
Voilà, mais elle est déclarée d'utilité publique en 2010.
Voilà. Cette fondation, du coup, elle a tout de suite suscité l'opposition, un peu politiquement, je dois le dire, mais aussi chez les historiens, parce que des fondations, ça existe. Hein, des fondations peuvent financer des recherches, mais quand on démarre avec une loi comme ça, c'est quand même un peu compliqué. Par ailleurs, c'est aussi un sujet d'actualité. Quand on parle de financement de la recherche, on aimerait bien avoir de l'argent, mais pas par une fondation. Vous comprenez,
d'accord.
Donc c'est une fondation, effectivement, dont l'existence, enfin, elle existe toujours, d'accord, mais les chercheurs s'en sont tous tenus très loin, parce qu'elle ne semble pas très fréquentable. Nous, on a l'habitude des institutions libres, indépendantes, publiques, pas créées par une loi qui affirme le bilan positif de la colonisation.
Alors, Marie-Christine, t'avais été journaliste, elle s'en est un petit peu approchée,
voilà,
vous avez vu quoi?
Je me suis approchée, pas grand-chose. Je crois qu'il y a eu deux ou trois expositions qui ont été... Quand j'ai eu le directeur général, il avait l'air très ennuyé, il m'a envoyé un vague prospectus. J'ai compris qu'il n'y avait plus de président du comité scientifique depuis des mois, et que cette fondation tournait à vide. J'avais juste une petite question justement à Sylvie Tenno, quand vous parliez de la possibilité de travailler sur et Georges Morin sur entre les deux pays. Sur les archives, est-ce que vous avez un accès? Parce que j'ai vu, moi, dans les documents, dans les réunions interministérielles de haut niveau, que la question des archives... Oui. Aussi bien du côté français, mais aussi du côté algérien. Alors, comment on travaille quand on est historien?
Alors, je vais
essayer
d'être rapide, si je peux. En fait, bon, en France, il y a une loi. Alors, elle est bien, elle n'est pas bien. Elle a ses défauts. Mais en gros, on a un cadre dans lequel on arrive à se repérer et on arrive à travailler. Ce n'est pas très compliqué. En Algérie, c'est beaucoup plus long. Plus compliqué, bon, juste parce que si vous voulez faire un travail d'historien, accéder aux archives quand vous n'êtes pas dans un régime démocratique, ça pose plein de problèmes. Je passe rapidement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que en fait, les deux États défendent des positions qui sont fausses. La position officielle française, c'est de dire qu'au moment de l'indépendance, les Français ont certes ramené des archives en France, mais qu'ils n'ont ramené que ce qu'il fallait, qu'ils n'ont pas emporté des choses qui auraient dû rester en Algérie. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, je crois. Et d'un autre côté, la thèse de l'État algérien, c'est le pillage. Les Français ont tout emporté, ils nous ont pillés. Et ça, c'est pas vrai non plus. Parce que, en fait, quantité d'archives de la période coloniale sont restées en Algérie. Le cadastre, l'état civil, les archives communales, etc. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est que du coup, quand, par exemple, on se dit, tiens, je voudrais les archives du tribunal de machin pour travailler sur telle affaire, eh ben, on sait pas où elles sont. On sait pas si elles sont à Alger, si elles sont à Aix-en-Provence, etc. Donc nous, je dirais professionnellement, notre point de vue aujourd'hui, c'est qu'on aimerait bien avoir un inventaire bilatéral. Mais quand je parlais de relations internationales tout à l'heure, c'est vraiment en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question qui est du ressort des ministères affaires étrangères des deux pays. Donc, dont en réalité les professionnels qui pourraient être les archivistes et les historiens sont dépossédés parce que c'est là aussi un levier qu'on actionne dans le besoin des relations entre États.
Alors justement, Georges Morin, dans l'Algérie au cœur des passions, à la fin du livre, vous dites qu'il faut absolument essayer de surmonter les différends qu'il peut y avoir entre la France et l'Algérie, que ça passe par ce travail de mémoire et de travail d'historien. Et il faut, dites-vous, ouvrir les archives, toutes les archives, et laisser les historiens d'Algérie et de France chercher, travailler, se rencontrer, échanger leurs découvertes et leurs travaux, ce qui veut donc dire que pour l'instant, ça n'est quand même pas tout à fait le cas. Et vous allez un petit peu plus loin en disant il faut tout faire pour parvenir à un corpus algéro-français minimum sur ces pages d'histoire commune. Et vous faites une petite référence à ce qui a été fait au niveau de la France et de l'Allemagne avec des manuels d'histoire commune. Est-ce que
qui ont mis presque une décennie à avoir le jour.
C'est ce qu'il faut viser? Est-ce que ça vous semble réalisable, je ne sais pas si c'est à court terme, en tout cas à moyen terme?
Je pense que sur des faits historique, enfin sur un schéma minimum,
Et ça serait quoi le minimum? Parce que regardez sur cet IF, on voit bien que même le nombre de victimes n'est pas le même selon.
Regardez sur 45.
Dans ce cas-là, vous écrivez quelles sont les estimations, pourquoi elles sont critiquables, et vous concluez que personne ne peut donner.
Et vous mettez ça dans un livre d'histoire.
Bah évidemment.
Bien sûr, oui.
Georges Morin.
Mais je pense que on doit quand même. Je fais appel au témoignage de Sylvie. Je pense qu'elle sera d'accord. Je pense qu'il y a quand même, quand vous travaillez avec Mohamed Harbi, avec d'autres, avec des jeunes historiens algériens, de ces cinéastes de grands talents, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'accorder sur des faits,
Donc faire un manuel d'histoire commun sur le modèle des manuels d'histoire franco-allemands, c'est possible pour vous?
C'est souhaitable, mais en même temps, avec tout ce que vient de dire Sylvie et qui me paraît profondément sensé, c'est que les travaux d'historien, jusqu'à la fin des temps, ils seront, parce qu'on va découvrir d'autres archives. Mais je vous dis simplement une chose. Je pense notamment à Christian Fellini qui travaille beaucoup sur les archives de la justice. Vous savez, pour son grand-père qui était magistrat en Algérie au moment de l'affaire de Marguerite au début du XXe siècle. Il y a paradoxalement, mais là aussi elle le sait, l'Algérie, on a le sentiment que tout est bloqué. Et puis, on a accès, comme ça, par hasard, ou par une connaissance, ou par une circonstance, à des archives dont on n'espérait jamais pouvoir les découvrir. Voilà, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font, avec difficulté, elle a raison de le dire, mais les choses avancent, y compris en Algérie.
Sur cette question de l'écriture d'une histoire commune, Marie-Christine Tabet, dans votre livre, vous citez quelqu'un qui, semble-t-il, n'en a pas encore cité ce soir, c'est Boualem Sansal, qui parle de cette fatalité. Les pays qui, au cours de l'histoire, ont été unis dans cette relation resteront indéfiniment dans ce rapport de dominant-dominé. Le fait d'avoir été dans une relation déséquilibrée, relation qui est sans doute d'ailleurs aujourd'hui encore déséquilibrée, ne serait-ce que du point de vue économique, ça freine considérablement l'idée d'écrire une histoire en commun.
Voilà. Alors Boualem Sansal, il dit effectivement ce rapport de déséquilibre, tout en disant que cet équilibre peut s'inverser, enfin c'est le jeu des balances, hein. On voit bien que le fort et le faible n'est pas toujours le même. Mais sur l'idée d'une histoire commune, moi j'ai eu le sentiment on a eu le sentiment, parce qu'on n'a pas avec Christophe Dubois en écrivant ce livre, c'est que il fallait déjà que chaque pays soit, mais je crois que vous le disiez un peu tout à l'heure, Sylvie Thénault, soit capable de faire sa propre histoire.
Oui.
Est-ce qu'en France, par exemple, nous c'est vrai, alors je vais faire bondir les invités, mais le 5 juillet 62, on l'a quand même véritablement découvert dans ses détails, puisqu'on a eu accès au fameux rapport de la Croix-Rouge, enfin bon, tout ça.
5 juillet 62, juste un mot, il faut rappeler,
donc,
Oran.
Donc, les exactions qui se sont passées à Oran ce jour-là.
Appelons un chat un chat, le massacre.
Le massacre, voilà. Je ne savais pas comment dire, mais vous avez
De ressortissants français.
De ressortissants français. Bon, alors, je ne vais pas faire de procès à qui que ce soit. Est-ce que c'est normal que cette date soit aujourd'hui prise en otage, quelque part à Béziers, par Robert Ménard, puisqu'il est finalement le seul à en parler réellement? C'est pas certain. Voilà, c'était...
Sylvie Thénault.
Ben, comme je l'ai dit plein de fois, l'histoire commune, il faut bien se garder de l'idée que ça va être une version absolument définitive et consensuelle. Oh, on peut écrire l'histoire en disant, voilà, il y a discussion, il y a débat. C'est déjà un grand pas d'accepter qu'il y ait débat.
Il y a 10 ans, Sylvie Thénault, vous écriviez, la différence entre les régimes, donc français et algérien, crée un obstacle à la gestion commune de ce passé. 10 ans après... Toujours la même chose.
Oui, en fait, je crois que vraiment, la comparaison avec le cas franco-allemand, elle tient pas du tout. Elle tient pas parce que l'Algérie n'est pas l'Allemagne en termes de régime, en termes de puissance.
C'est-à-dire que c'est pas une démocratie.
C'est pas une démocratie. Et puis aujourd'hui encore, c'est quand même un pays qui, dans le rapport mondial, n'est pas du côté de la domination. Hein. C'est un pays qui est pays du Sud, etc., tout ce que vous voudrez. Mais surtout, moi, je crois pas aux interprétations psychologisantes quand on parle de phénomènes qui concernent des sociétés ou des États. Je ne crois pas une seconde. Ce qui a fait, contraint la réconciliation franco-allemande, c'était la nécessité de construire l'Union européenne. S'il n'y avait pas de réconciliation franco-allemande, il n'y avait pas d'Union européenne. Donc ils étaient obligés. Il n'y a rien qui oblige... Aujourd'hui,
la situation en Méditerranée, ça pouvait être
oui, mais facteur, sauf que de fait, l'Union européenne, dans sa dans la pensée de sa relation avec la Méditerranée, n'en est pas à une volonté d'union. Donc, on n'a rien qui oblige à aller vers quelque chose qui serait une réconciliation.
Est-ce que la présence, par exemple, forte de binationaux sur le sol français, c'est-à-dire de franco-algériens, Georges Morin, ça pourrait pas être une obligation avancée?
Oui, c'est un levier formidable. C'est un levier formidable.
Sauf qu'on a plutôt l'impression que c'est un élément de crispation aujourd'hui.
Et en plus, je le vois, et l'actualité nous donne les exemples tous les jours, la situation en Méditerranée, ça nous concerne. Je veux dire, donc là aussi, ça peut être... De la même façon, Sylvie a raison quand elle dit qu'il y avait une obligation pour les Français et les Allemands parce que l'Europe devait une nécessité. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre froide. Là, aujourd'hui, il y a une autre guerre qui se déroule sur nos rivages et qui nous concerne tous. Donc je pense que cela pourrait servir de
donc la
de
coopération
levier.
Franco-algérienne dans la lutte contre le terrorisme, ça pourrait être un de ces leviers, Marie-Christine Tabé?
Nous, oui, c'est le sentiment que l'on a. La population partagée, la pression migratoire... ou la gestion, en tout cas, je crois que c'est 300 000 visas entre la France et l'Algérie chaque année. Donc, ce sont des voyages incessants, des recherches économiques. Enfin, effectivement, peut-être que ça n'est rien de psychologisant et que c'est de la réelle politique. Et le terrorisme, la question terroriste, la bande sahélienne, le fait que l'État algérien ait accepté le survol de son territoire aux avions français,
on sait
le
que ça
ravitaillement,
coopère, hein.
Voilà, donc ça coopère, ça a toujours coopéré, je crois, hein, d'un point de vue policier.
Bon, il nous reste à peine une grosse minute. Je vous rappelle la question qu'on posait ce soir à France-Algérie, que commémorer ensemble. Faisons un rêve. S'il y avait une date possible à commémorer. De manière égale entre la France et l'Algérie, ou un personnage, une personnalité qui peut-être pourrait justement faire consensus. Nous, on avait pensé par exemple à quelqu'un comme Germaine Tillon, qui était censé rentrer au Panthéon prochainement, figure de la résistance, qui a dénoncé la torture en
vouloir,
Algérie. Ça pourrait être une figure comme ça, consensuelle,
oui, mais
de côté.
Beaucoup de figures, il y a plusieurs figures de ce type. Mais pour revenir à votre question initiale, c'est parce que je crois, vous savez, on a fait un colloque à Lima il y a 2 ans. Sur justement les réformistes et les libéraux dans l'Algérie coloniale. Bon, là aussi, des gens qui ont essayé de réformer le système colonial de l'intérieur, parce que, encore une fois, le système colonial, il faut le dire, il faut le répéter, système injuste, indigne, bon, qui a explosé avec la violence que l'on sait. Je crois que... mais qu'est-ce qu'on peut commémorer ensemble? Je ne pense pas que ce soit pensable.
La guerre 14-18.
Non, mais commémorer, ce qui est compliqué, c'est que politiquement, c'est une défaite française quand même, l'indépendance de l'Algérie. Enfin, je veux dire, bon, alors, commémorer une défaite, c'est compliqué. Un personnage emblématique, moi, j'en vois pas, parce que je suis pas sûre que l'entre-deux, encore une fois, je suis pas consensuelle, hein, mais je suis pas sûre que l'entre-deux soit le bon choix. Sur les dates. Ben oui, je crois à l'indépendance malgré tout, même si c'est difficile à avaler côté français. Mais là, on est au cœur de la difficulté. Hein.
Bon, on est au cœur de la difficulté, on est à la fin de l'émission en plus. Je vous remercie en tout cas beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Sylvie Thénault, donc Marie-Christine Tabé et Georges Morin. Je ne recite pas vos excellents ouvrages, mais on peut les trouver sur notre excellent site. franceculture.fr, la page du grain à moudre. On se retrouve lundi prochain, 18h20. La question que nous poserons, y a-t-il une surenchère laïque ?